Chapitre 7. Le matin où, dans la cour de l'étape, avait eu lieu la querelle entre l'officier de police et le père de la petite fille, Nekhludov, qui avait couché à l'auberge, s'était éveillé moins tôt que d'ordinaire. Et il avait eu encore, sitôt levé, à écrire de nombreuses lettres, de sorte qu'il était parti trop tard pour pouvoir rejoindre le convoi en chemin, comme il l'avait fait les jours précédents. Quand il était arrivé au village où se trouvait l'étape suivante du convoi, déjà le soir commençait à tomber. Nekhludov se fit d'abord conduire à l'auberge du village. Après avoir changé de linge et de vêtements, car le brouillard l'avait trempé jusqu'aux os, il s'assit dans une grande salle propre et avenante, toute décorée d'images pieuses et de portraits de la famille impériale. Il but coup sur coup plusieurs verres de thé, subit sans trop d'impatience le bavardage de l'hôtesse, une grosse veuve à la gorge débordante, et se prépara à sortir pour aller demander à l'officier du convoi la permission de s'entretenir avec la Maslova. Pendant les 6 derniers jours, cette permission lui avait été refusée. Il avait pu échanger quelques paroles avec la Maslova et ses compagnons sur la route, mais pas une fois on ne l'avait laissé entrer dans l'étape. Cette sévérité provenait de ce qu'on attendait la visite d'un haut fonctionnaire, un inspecteur des prisons. Mais l'inspecteur était enfin venu, ou plutôt il avait passé près du convoi, sans même daigner s'arrêter au passage. Et Nekhludov espérait que l'officier qui avait pris la direction du convoi ce jour-là l'autoriserait, comme ses prédécesseurs, à pénétrer dans la chambrée des condamnés politiques. L'hôtesse offrit à Nekhludov de le faire conduire en voiture jusqu'à l'étape, qui était située à l'autre bout du village. Mais Nekhludov préféra s'y rendre à pied. Un jeune garçon d'auberge, aux larges épaules, chaussé d'énormes bottes fraîchement goudronnées, fut chargé de lui tenir compagnie pour lui montrer le chemin. Le brouillard était devenu si épais, à la tombée de la nuit, que Nekhludov ne voyait pas son guide, qui cependant marchait à 2 pas de lui. Il entendait seulement le clapotis de ses grosses bottes s'enfonçant dans la boue gluante et profonde. Au sortir de la longue rue du village, où par endroits des lumières brillaient aux fenêtres, l'obscurité se fit plus complète encore. Mais bientôt Nekhludov aperçut, devant lui, les feux des lanternes attachées à la porte de l'étape. Et les 2 taches rouges sans cesse se rapprochèrent, apparurent plus nettes, jusqu'à ce qu'enfin Nekhludov pût distinguer les poteaux qui formaient l'enceinte, et la guérite du factionnaire, et la sombre figure de ce factionnaire lui-même, debout près de la porte, le fusil au bras. Le factionnaire lança dans les ténèbres son réglementaire « Qui vive ?» et en découvrant que les nouveaux venus n'appartenaient pas au convoi, il leur cria d'un ton sévère qu'aucun étranger n'était admis dans l'étape, ni même n'avait le droit de s'arrêter le long de l'enceinte. Mais le guide de Nekhludov ne s'alarma point de cette sévérité. « Eh bien vrai, en voilà un ogre, dit-il. Fais donc signe à ton caporal, nous allons l'attendre ici. » Le soldat, se retournant vers la porte, appela quelqu'un. Et puis il se remit en faction, considérant la façon dont le jeune garçon d'auberge essuyait avec une poignée de feuilles les bottes de Nekhludov, où la boue s'était déposée en couches épaisses. Derrière le mur d'enceinte, on entendait un bourdonnement confus de voix entremêlées de rires. Après 3 minutes d'attente, Nekhludov vit un guichet s'ouvrir dans la porte. Et des ténèbres surgit, pleinement éclairé par le reflet des lanternes, un vieux sous-officier en uniforme qui demanda ce qu'on lui voulait. Nekhludov lui remit sa carte de visite qu'il tenait en main et le pria d'aller dire au chef de convoi qu'il désirait lui parler pour affaires personnelles. Le vieux sous-officier était moins sévère que son subordonné, mais il était, en revanche, extrêmement curieux. Il tint à savoir pourquoi Nekhludov désirait parler à l'officier et d'où il venait, et qui il était. Encore que sans doute, il flaira simplement la possibilité d'un pourboire en échange de sa complaisance. Il ne se décida à aller porter la carte que lorsque Nekhludov lui eut promis de le récompenser s'il parvenait à le faire admettre auprès de l'officier de convoi. Alors il hocha la tête et partit en courant. Pendant que Nekhludov et son guide continuaient à attendre devant la porte, le guichet s'ouvrit de nouveau, pour livrer passage à toute une troupe de femmes portant des paniers, des sacs, des cruches et des bouteilles. Elles parlaient sans arrêt et très vite, avec leur sombre accent sibérien. Toutes étaient vêtues de pelisses courtes qui leur donnaient un air de petites bourgeoises de la ville plutôt que de paysannes. Mais elles avaient des fichus sur la tête et leurs jupes étaient relevées très haut, découvrant leurs mollets jusqu'au niveau des genoux. À la lumière des lanternes, elles examinèrent avec curiosité Nekhludoff et son guide. Et l'une d'elles, visiblement ravie de retrouver là le garçon d'auberge aux larges épaules, se mit tout de suite à l'accabler d'injures, par manière de plaisanterie, à la sibérienne. « Et toi, cochon, qu'est-ce que tu fais là, vilaine bête ?» lui dit-elle. « Je conduis un étranger, » répondit le jeune homme. « Et toi, qu'est-ce que tu es venu apporter ?»« Du fromage blanc, et on m'a encore dit de revenir demain matin. » « Et on ne t'a pas gardé à coucher ?» demanda malicieusement le garçon d'auberge. « Qu'est-ce qui te prend, tête de porc ?» répondit en riant la jeune femme. « Allons, rentre au village avec nous, tu nous tiendras compagnie. » Le garçon dit alors quelque chose qui fit rire non seulement toutes les femmes, mais jusqu'au solennel factionnaire lui-même. Puis, se retournant vers Nekhludoff, « Vous croyez que vous trouverez votre chemin sans moi pour revenir ? Vous ne vous égarerez pas ?» « mais non, sois tranquille. Quand vous aurez dépassé l'église, la troisième porte à droite après la grande maison à deux étages. Et puis, tenez, voici mon fouet. » Et il remit à Nekhludoff un long et mince bâton qu'il tenait en main. Après quoi, il s'enfonça dans les ténèbres en compagnie des femmes, avec un bruyant clapotis de ses énormes bottes. Nekhludoff entendait encore les rires et les voix des femmes, lorsque le vieux sous-officier, avec un sourire caressant, vint lui annoncer que l'officier consentait à le recevoir. Chapitre 8. L'étape était disposée comme le sont presque toutes les étapes sur le chemin de la Sibérie. Au centre d'une cour entourée de piquets, se dressaient trois bâtiments tout en rez-de-chaussée. Dans l'un, le plus grand, avec des fenêtres grillées, logeaient les prisonniers. Dans l'autre, les gardiens. Dans le troisième étaient installés les bureaux, et c'est lui aussi qui servait de demeure au chef de convoi. Les fenêtres des trois bâtiments étaient ce soir-là vivement éclairées, et ces lumières, vues du dehors, suggéraient l'idée qu'à l'intérieur, autour d'elles, devait régner un chaud et tranquille bien-être. Deux lanternes étaient en outre allumées devant chaque perron, et il y avait encore cinq lanternes allumées dans la cour. Le sous-officier conduisit Nekhludoff par un sentier fait de planches enfoncées dans la boue jusqu'au perron du plus petit des trois bâtiments. Là, il lui fit monter trois marches et entra avec lui dans une antichambre toute remplie d'une étouffante odeur de charbon. Près du poêle, un soldat en chemise de grosse toile, penché en deux, soufflait de toutes ses forces dans un samovar. En apercevant Nekhludoff, il se redressa et courut jusqu'à la porte de la pièce voisine. « Le voici, votre Excellence. »« Eh bien, fais entrer, » répondit une voix irritée. « Veuillez prendre la peine d'entrer, » dit le soldat à Nekhludoff, et tout de suite il se remit à souffler dans le samovar. Dans la pièce où entra Nekhludoff, une grande salle à manger qu'éclairait une lampe suspendue au plafond, le chef du convoi était assis devant une table, déjà à demi desservie. C'était le même gros homme rouge à la longue moustache blonde qui, le matin, avait démoli d'un coup de poing le visage du forçat. Pour se mettre à l'aise, il avait déboutonné sa veste à brandebourg et, sous sa chemise déboutonnée, montrait à découvert son cou et sa poitrine. La salle à manger, trop chauffée, était remplie d'une insupportable odeur de tabac et d'eau-de-vie. En apercevant Nekhludoff, l'officier se souleva de sa chaise. « Qu'y a-t-il à votre service ? » demanda-t-il. Et sans attendre la réponse, il cria vers l'antichambre « Bernoff, eh bien, et ce samovar, est-ce pour aujourd'hui ?» « Tout de suite, votre Excellence. »« Attends un peu, je t'en donnerai moi, dès tout de suite. »« Voici, votre Excellence, » dit humblement le soldat en apportant le samovar. Quand l'officier eut mis le thé dans le samovar, il tira du buffet un flacon de cognac et une boîte de biscuits. Puis, se retournant de nouveau vers Nekhludoff, « En quoi puis-je vous servir ?»« Je voudrais vous demander l'autorisation de m'entretenir avec une prisonnière, » dit Nekhludoff, toujours debout. « Une politique, c'est défendu par la loi, » déclara l'officier. « Cette femme n'est pas une condamnée politique, » dit Nekhludoff. « Mais je vous en prie, asseyez-vous donc. » Nekhludoff s'assit. « Elle n'est pas une condamnée politique, » reprit-il, « mais, sur ma demande, l'autorité supérieure lui a permis de loger avec les politiques. »« Ah oui, je sais, » fit l'officier. « Une petite, brune, très gentille, ma foi. Eh bien, soit, vous pourrez la voir. Voulez-vous fumer ? Il tendit à Nekhludov un paquet de cigarettes et poussa vers lui un verre qu'il remplit de thé. « Merci, je voudrais... »« La soirée est longue, vous aurez bien le temps. Je vais la faire appeler. » »« Est-ce que, au lieu de la faire appeler, je ne pourrais pas la voir dans sa chambrée ?» demanda Nekhludov. « Dans la section des politiques ? C'est défendu. »« On m'a déjà plusieurs fois laissé y entrer. Si l'on craint que j'apporte quelque chose d'interdit, on n'a qu'à me fouiller. On verra que je n'ai rien. » « c'est bon, je m'en fie à vous, » dit l'officier, tout en versant du cognac dans le verre de Nekhludov. « Vous ne voulez pas de cognac ? À votre aise. Quand on vit dans cette maudite Sibérie, c'est un vrai plaisir de rencontrer un homme du monde. Notre service, voyez-vous, est bien dur. Et le plus malheureux, c'est que pour la plupart des gens, un officier de police est toujours un personnage grossier, mal élevé, ignorant. On ne se doute pas qu'il y a parmi nous des hommes d'une toute autre espèce. » Le visage rouge de l'officier, son haleine d'ivrogne, l'énorme chaton de sa bague, et surtout son mauvais rire, causaient à Nekhludov un profond dégoût. Mais ce soir-là, comme durant tout le temps de son voyage, il se trouvait dans cette situation d'esprit sérieuse et recueillie, où il ne se permettait point de juger à la légère qui que ce fût, et où il croyait devoir parler à chacun de ce qu'il jugeait qu'il avait à lui dire. Quand il eut fini d'entendre les doléances de l'officier, il lui dit gravement « J'estime que, dans votre service, vous pouvez trouver une consolation en travaillant à adoucir les souffrances des prisonniers. »« Quelles souffrances ? Ah, on voit bien que vous ne connaissez pas cette espèce-là. »« Est-ce donc une espèce différente des autres ?» demanda Nekhludov. « Ce sont des gens pareils à nous. » »« Et quelques-uns parmi eux sont condamnés injustement. »« Sans doute, ils s'en trouvent de toutes les sortes. » Et je les plains bien, croyez-moi. D'autres ne leur passent rien, tandis que moi, je fais tout mon possible pour adoucir leur sort. Souvent, je m'expose à souffrir moi-même pour leur épargner une souffrance. « Encore du thé ? » demanda-t-il en s'en versant un verre. « Qu'est-ce que c'est, au juste, cette femme que vous voulez voir ? » ?»« C'est une malheureuse créature. On l'a condamnée injustement pour meurtre. Une femme pleine des plus hautes qualités. » L'officier secoua la tête. Oui, il y en a de très gentilles. À Kazan, laissez-moi vous raconter ça, j'en ai connu une nommée Emma. Elle était hongroise d'origine, mais elle avait des yeux de persane, poursuivit-il en souriant à ce souvenir. Et du chic, comme une vraie comtesse. Nekhludov l'interrompit pour revenir à son sujet. J'estime que vous avez le pouvoir d'améliorer beaucoup la situation de ces malheureux. Et j'ai la conviction que vous trouveriez une grande source de plaisir. » L'officier considérait Nekhludov de ses yeux luisants. Il attendait avec impatience qu'il eût fini son sermon pour reprendre à son tour l'histoire de sa hongroise aux yeux de persane. « Oui, c'est bien vrai, vous avez bien raison, » interrompit-il. « Et je ne me fais pas faute de les plaindre, je vous assure. Mais pour en revenir à cette Emma dont je vous parlais, savez-vous ce qu'elle a fait ?» « Je n'ai aucune envie de le savoir, » déclara Nekhludov d'un ton cassant, « et je vous dirai en toute franchise que, après avoir jadis mené une vie fort immorale, j'en suis arrivé aujourd'hui à éprouver une véritable horreur pour ce genre d'aventure galante avec des femmes. » L'officier considéra Nekhludov avec inquiétude. « Alors vraiment, vous ne voulez plus de thé ?»« Non, merci. »« Bernoff !» cria l'officier. « Conduis ce monsieur à Vakulov. » Et dis-lui de le laisser entrer dans la chambre des politiques. Il pourra y rester jusqu'au couvre-feu. Chapitre 9. Accompagné par le soldat, Nekhludov se retrouva de nouveau dans la sombre cour où luisaient de place en place les feux rouges des lanternes. « Où vas-tu ? » demanda un gardien, debout sur le perron du bâtiment central. « Dans la cinquième salle, » répondit le soldat. « On ne passe pas par ici, c'est fermé. Il faut faire le tour. » « Et pourquoi est-ce fermé ? Le gardien-chef est sorti et a emporté la clé. « Eh bien, faisons le tour. Venez par ici. » Le soldat conduisit Nekhludov vers un autre perron, à travers un véritable marécage de boue. On entendait toujours, à l'intérieur du bâtiment, le même bruit continu de voix et de rires. Et à peine Nekhludov fut-il entré, qu'à ce bruit se mêla pour lui le son des chaînes remuées, en même temps qu'une lourde puanteur emplissait ses narines. Ces deux sensations, le son des chaînes et la puanteur étaient devenus familières à Nekhludov depuis qu'il fréquentait le monde des détenus. Mais ce soir-là, comme dès le premier jour, elles agissaient sur lui d'une façon irrésistible, lui donnant une étrange impression d'étouffement à la fois physique et morale. Dans le corridor du bâtiment central, le premier spectacle qui s'offrit aux yeux de Nekhludov fut celui d'une femme qui, les jupes relevées, était assise sur le cuveau à ordures. Sans la moindre gêne, cette créature s'entretenait avec un homme debout devant elle, un forçat à tête rasée, une chaîne aux pieds. Le forçat, en apercevant Nekhludov, cligna de l'œil et dit « Le tsar lui-même ne peut pas s'empêcher d'en faire autant quand l'envie lui vient. » La femme tranquillement se redressa et rajusta sa jupe. Sur le corridor donnaient les portes des chambrées. D'abord se trouvait la chambre des condamnés, accompagnée de leur famille. Puis c'était la chambre des célibataires. Et, à l'extrémité du corridor, deux petites salles servaient de logement aux condamnés politiques. Cette étape, construite pour loger 150 personnes, en contenait ce soir-là près de 400. Les prisonniers y étaient si à l'étroit qu'ils encombraient tout le corridor. Les uns étaient assis ou couchés par terre, d'autres marchaient de long en large, tenant en main des verres de thé. De ce nombre était Taras, le mari de Fedosia. Il vint au-devant de Nekhludov et le salua affectueusement. Son bon visage était tout couvert de taches bleues, et un bandeau cachait l'un de ses yeux. « Que t'est-il arrivé ?» lui demanda Nekhludov. « Eh bien, voilà, j'ai eu une affaire, » dit Taras en souriant. « Ils sont tous enragés pour se battre, » dit le gardien qui accompagnait Nekhludov. « Et tout cela pour ces rosses de femmes, » ajouta un prisonnier qui s'était arrêté au passage. « Encore bien heureux de garder un œil, » le mari de Fedka. « Et Fedosia n'a pas eu de mal ?» demanda Nekhludov. « Oh, pas du tout, elle va très bien. C'est pour elle que je porte ce thé, » dit Taras, et il entra dans la salle. Nekhludov jeta un coup d'œil dans cette salle par la porte entr'ouverte. Elle était pleine d'hommes et de femmes couchés sur les lits et sur le plancher entre les lits. Mais la salle suivante, celle des célibataires, était plus remplie encore, au point que les prisonniers s'y tenaient couchés à plusieurs sur un même lit. Au milieu de la salle, un groupe entourait un vieux forçat qui paraissait distribuer quelque chose autour de lui. Le gardien expliqua à Nekhludov que c'était l'ancien du convoi qui répartissait entre les prisonniers les sommes gagnées par eux aux cartes. Et en effet, à peine le groupe eut-il aperçu le gardien, que toutes les voix se turent, toutes les mains se baissèrent, tous les yeux prirent une expression mêlée de crainte et de malveillance. Nekhludov reconnut dans ce groupe le forçat Fedorov, qui l'avait autrefois particulièrement intéressé dans la prison. Le forçat avait passé son bras autour du cou d'un jeune prisonnier blond, imberbe, et comme enflé, un petit être vicieux et répugnant, en compagnie duquel on le voyait toujours. Un autre forçat, qui se tenait là aussi, chauve et sans nez, avait été présenté à Nekhludov comme une des illustrations du convoi. On racontait que s'étant enfui du bagne, il avait tué son compagnon pour le manger. Ce misérable, debout à l'entrée du corridor, regardait Nekhludov d'un air hardi et moqueur, sans le saluer, comme faisaient la plupart des autres prisonniers. Si familier que lui fût devenu ce spectacle depuis plusieurs mois, Nekhludov ne pouvait jamais se trouver en présence de cette foule des condamnés sans éprouver, comme ce soir-là, un cruel sentiment de honte et presque de remords, le sentiment de sa propre culpabilité à l'égard de ces malheureux. Et cette honte et ce remords lui étaient d'autant plus cruels qu'il s'accompagnait chez lui d'un sentiment non moins invincible d'horreur et de répulsion. Il savait que dans les conditions où ces malheureux s'étaient trouvés placés dès l'enfance, ils avaient dû fatalement devenir ce qu'ils étaient. Et cependant, il ne pouvait s'empêcher de les mépriser et de les haïr, et de ressentir pour eux un dégoût profond. « En voilà un dont les poches seraient bonnes à fouiller, » dit une voix éraillée derrière Nekhludov, au moment où celui-ci s'approchait déjà de la porte de la salle voisine, et la foule des condamnés éclata de rire.